le psaume 119. Psaume 119. Je ne vais pas le lire en entier, hein. Vous inquiétiez. J'ai dit dans le psaume ou j'ai dit le psaume? J'ai dit le psaume, on va lire le psaume. Oh, excusez-moi, c'était involontaire, mais pour moi, ça vous a réveillé. Psaume 119. Ça va comme ça, le micro? Je n'y touche plus. Je vais essayer. On va lire le verset 73. On va lire juste le verset, après on lira d'autres passages dans la Bible, mais dans le psaume 119, ce verset. Psaume 119, 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Finalement, ça va dans la suite ainsi de mes voeux. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. C'est là la véritable intelligence selon Dieu, d'apprendre ses commandements. Quelqu'un a dit que quand on a cessé d'apprendre, on a cessé de vivre. Le croyant en Jésus-Christ, celui qui a rencontré Jésus comme son sauveur, n'est pas simplement un croyant. Il me semble que la dernière fois, j'ai parlé sur ce thème du disciple. Êtes-vous des disciples de Jésus? Amen. Ce n'est pas tout de le dire. Il faut l'être. Et un disciple, par définition, qu'est-ce qu'il fait? Il? Allez-y, hein. Il reproduit ce qu'il apprend de son maître. Donc il doit apprendre pour reproduire, et il reproduit ce qu'il est. Un disciple doit apprendre. Si on cesse d'apprendre, on n'est pas un disciple. On se considère donc comme un maître. On peut se considérer maître de sa vie, on peut se considérer peut-être maître, ou alors du moins, soit père, ou avec un certain niveau où on n'a plus à nous en prendre, on peut ne plus être enseignable, ça arrive. Malheureusement, même pour certains qui étaient disciples, ils peuvent passer à un stade où ils ne sont plus enseignables, donc ils ne sont plus disciples. Un disciple continue à apprendre et sait qu'il a à apprendre et veut apprendre. Mais un disciple de Jésus, par définition, on a entendu, il reproduit ce qu'a accompli Jésus-Christ, mais il se reproduit lui-même. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je n'invite pas chacun à dire, mais j'ai ma place dans l'enseignement, il y a les ministères dons donnés à l'Église. À l'Église, ce n'est pas à une personne, on le voit dans Éphésiens 4, un ministère don pour l'édification ainsi de tous, mais chaque disciple a comme responsabilité d'enseigner ce qu'il a reçu, pas de vouloir enseigner les autres. Mais si il a cette capacité d'apprendre et il garde cette capacité d'être enseignable, il doit se reproduire. Et il ne doit pas reproduire ce qu'il n'est pas. S'il est disciple, il ne doit pas simplement reproduire des croyants, mais des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire suivre la personne à qui il a transféré finalement ce qu'il a reçu. La suivre pour qu'elle devienne disciple et qu'elle-même puisse se reproduire. C'est là le modèle que nous a laissé Jésus-Christ. Et si on est, et l'Église dans son ensemble a la grâce de pouvoir profiter des ministères dons que Dieu a donnés, c'est pour l'édification de tous, pour l'édification de l'Église, mais au niveau personnel, on a cette responsabilité d'annoncer l'évangile, mais d'apprendre à observer ce que Jésus nous a prescrit et d'être ainsi cet évangéliste, mais aussi cet enseignant au niveau des uns, des autres, pas de nos frères et sœurs, mais prendre vraiment à cœur les personnes qui ont témoigné, qu'on amène ainsi à Jésus-Christ pour qu'ils soient de réels disciples. parler des ministères d'ombre, il y a le ministère d'évangéliste, et on est vraiment sous le bénéfice du ministère d'évangéliste que Dieu a donné à son Église. Mais ce n'est pas eux qui vont faire de toutes les nations des disciples. Leur ministère d'ombre, leur appel, c'est de pouvoir proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a les ministères dont d'enseignants, de pasteurs, donc de docteurs, mais c'est notre responsabilité. Il faut prendre à cœur. Je suis touché par l'orientation qu'a pris même le ministère d'un évangéliste, Franck Alexandre, qui est un évangéliste qui est reconnu mondialement, qui a fait des campagnes d'évangélisation dans le monde entier avec des milliers de personnes et qui a vu des milliers de personnes venir à Christ, venir aux campagnes et se tourner vers Jésus-Christ. Et je partageais, il m'accompagnait à la gare il y a quelques mois, il était avec son épouse et je lui ai dit, mais Franck, comment tu as vécu, comment s'est passée cette réorientation finalement de ton ministère, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment à cœur la France et de pouvoir non seulement prêcher la bonne nouvelle, mais surtout équiper chaque croyant pour être de réels témoins. Et il a toute une formation et il s'engage vraiment de tout son cœur dans la formation de disciples. Et je lui dis, mais parce que c'est souvent on va opposer peut-être le modèle où certains qui disent, mais il nous faut des grands évangélistes, il faut même faire venir un grand évangéliste pour évangéliser toute la région. Alléluia. Mais quand ce grand évangéliste est saisi par la grâce de Dieu, lui qui a été vraiment au bénéfice de l'Esprit de Dieu et qui a été une bénédiction pour tant de pays, aujourd'hui, et même pour notre pays de France, toujours saisi par la grâce de Dieu, à travers tout un parcours personnel, douloureux aussi, la maladie. Et je lui ai dit, mais il faudrait que tu écrives un livre, pour ne pas opposer justement les deux modèles, mais au contraire, montrer la complémentarité et que chacun puisse se responsabiliser dans l'appel qu'il a reçu. Et aujourd'hui, il œuvre pour que les croyants soient équipés pour qu'ils fassent des disciples. Toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, si tu as ce cœur enseignable, et tu es prêt à prendre de Jésus, tu as comme responsabilité, oui, de prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire de témoigner de l'amour de Jésus-Christ à travers la proclamation de l'Évangile, à travers ton témoignage, d'être un témoin de Jésus-Christ, puis de faire de toutes les nations vraiment aussi des disciples, c'est-à-dire t'engager, accompagner et à suivre. C'est le modèle que Jésus nous a laissé à travers même déjà ses disciples. Si on regarde le parcours de Jésus sur cette terre, on se dit, mais 3 ans à exercer son ministère, c'est bien peu. C'est bien peu. On aurait pu penser qu'il aurait pris bien plus d'années, sachant même qu'à 12 ans, il était déjà capable d'enseigner dans la synagogue. En parlant des affaires de son père, il avait déjà à cœur, il y avait. Mais parce que le modèle que Dieu a voulu laisser à travers Jésus-Christ, c'est durant ces 3 années, il a formé. Qui ? Ses disciples. Pourquoi ? Pour les envoyer. Et alors qu'il était toujours là, il les a envoyés quand même. Jésus, en étant présent, tu aurais pu attendre de partir, mais profite de chaque seconde, de chaque minute. Et toi, fais l'œuvre, elle est tellement plus grande. Non ! Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes, non pas plus puissantes. Qui pourrait penser cela ? Mais plus grande, parce que le Saint-Esprit nous conduit, nous envoie. Et aujourd'hui, que ce soit en Arles, que ce soit dans cette région, il y a là des disciples que Jésus envoie, que Jésus forme, et qui sont prêts à apprendre auprès de Jésus pour pouvoir faire des disciples. Et là, c'est finalement le principe de la multiplication plutôt que l'addition. Et c'est le principe que Jésus nous a laissé. Il n'a pas voulu, durant ces années, additionner maximum, mais déjà, il a voulu multiplier. Comment multiplier ? Ben c'est former les disciples, les envoyer pour qu'ils forment, les envoyer. Et là, on voit que c'est la seule réponse possible pour gagner ainsi notre monde et toutes les nations, et même notre ville. Amen. Quand on a cessé d'apprendre, c'est qu'on a cessé de vivre. Psaume 119, il est dit, je le répète, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alors oui, la nouvelle naissance doit être suivie par ce parcours de formation, d'éducation. Et ce parcours, on n'en a jamais fini. Même en tant que serviteur de Dieu, pasteur, quand bien même quelqu'un pourrait avoir tant d'expériences si utiles, si précieuses, s'il a fini d'apprendre, il a fini de vivre. Peut-être pas au niveau charnel, mais au niveau spirituel. S'il a fini d'apprendre, il a fini de vivre. On sait qu'il y a un but de la part de Dieu, même pour notre vie. Et ce but, des fois, on peut le mettre de côté, on peut le perdre, on peut perdre l'objectif. On peut ne pas garder les yeux fixés vers Jésus-Christ. On peut même parfois regarder en arrière, faisant attention. Rappelons-nous, ainsi de la femme de Lot. On peut ne pas prendre l'appel de Dieu toujours à cœur. Il ne faut pas toujours s'en culpabiliser. Il ne faut pas se mépriser pour cela. Vous savez, le propre d'un appel, c'est qu'il revient à intervalles, réguliers ou pas, mais qu'il revient sur le devant de la scène. Mais il n'est pas toujours sur le devant de la scène. Si l'appel de Dieu brûle dans un cœur, et lorsque Dieu révèle peut-être sa volonté, mais qui est lointaine, et qui demande tout un parcours et un chemin, si cela brûle dans le cœur, on ne pourrait plus rien faire d'autre. Moi, je parle pour moi, et j'en grâce à Dieu de ce qu'il ne m'a pas, et ne me révèle pas sa volonté dans le détail, dans le temps. Sinon, je prendrai mes valises et je l'accomplirai. Il y a des choses qu'il met sur mon cœur. Je dis, mais est-ce que c'est réellement toi ou pas? Il y a des moments, pas de doute, mais de questionnement, en disant, mais finalement, là, je suis en train d'accomplir ta volonté, mais il y a une volonté dont tu m'as éclairé. Est-ce que c'est réellement ta volonté? Est-ce que je me suis fait des idées? Est-ce que c'est moi? Et c'est bon de te remettre en question, parce que s'il faut éprouver... Que la volonté de Dieu, elle doit être accomplie dans notre vie de manière parfaite. Et l'or, il est pur lorsqu'il est éprouvé par le feu, lorsqu'il est passé dans le creuset, lorsque toutes les impuretés sont brûlées. Et c'est là où il peut être utilisé. Sinon, c'est peut-être abusé, mais c'est un simple métal. Mais en tout cas, il n'est pas pur. Il a besoin d'être purifié. Et notre vie, notre appel particulier, la volonté de Dieu a besoin d'être éprouvée dans notre cœur. Et tout le cheminement de notre vie, et des fois même les difficultés, les épreuves, les volontés autres que celles peut-être que Dieu nous a révélées et qu'on prend comme volonté pleine et entière pour notre vie, sont là utiles aussi dans l'œuvre de Dieu. Il est souverain, il sait ce qu'il fait. Voit Abraham qui avait pris comme but de sa vie toute la descendance que Dieu lui avait promise. Mais il a dû apprendre à observer la volonté de Dieu, donc à adorer, parce que c'est ce qu'il a dit à son fils en montant sur la montagne. Nous allons adorer, c'est la première mention de l'adoration dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et quelle mention ! C'était bien plus glorieux de penser à toute la descendance que Dieu allait lui donner. C'était la volonté de Dieu que d'accepter. C'est bien plus facile de penser à toute cette descendance que d'accepter que pour adorer Dieu, sa volonté, c'était d'offrir son fils, son unique, et qui rentrait en contradiction avec la volonté première de Dieu qui lui avait été révélée, cette descendance. Mais il a dû apprendre que si il avait fini d'apprendre, il avait fini de vivre. Et qu'avec Dieu, il n'avait pas fini de vivre, donc il devait encore apprendre. Et il a appris. Il a appris à se connaître et à voir vraiment quelle qualité d'adoration il pouvait rendre à Dieu. Il était prêt à y aller. Il y est allé. Imaginez le cœur du Père. Mais il y est allé. Imaginez le cœur du Père répondant à son fils. Et dans ce moment extrêmement terrible, dans cette épreuve, où tout pouvait sembler un obstacle, mais il y est allé, il a pu répondre, Dieu se pourvoira. Et la Bible nous apprend dans le Nouveau Testament qu'il y avait dans son cœur une conviction. C'est que Dieu était puissant, même jusqu'à ressusciter les morts. Il avait cette conviction dans la toute-puissance de Dieu. Rien ne lui était impossible. S'il ne comprenait pas, il continuait à avancer. Si Dieu lui avait révélé sa volonté, il apprenait pas d'une manière insensée, non, avec intelligence. C'est ça la réelle intelligence. Pas simplement avec des révélations, peut-être de ceux qui nous arrangent bien. Non, parce qu'il y a là la parole de Dieu qui produit la foi et qui l'a amené à répondre avec foi et à continuer à avancer avec foi et dire même, quand bien même, je suis là un vieillard, excusez-moi l'expression, mais comprendre qu'il y avait la volonté de Dieu, ce n'était pas maintenant la descendance qui allait, sa descendance qui allait accomplir la suite de la volonté de Dieu, mais tant que Dieu lui prêtait vie, il avait à apprendre de Dieu et à répondre à son appel, quand bien même il semblait humainement aller à l'encontre de l'appel le plus pressant de sa vie. Il devait se soumettre au chemin et à la volonté de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dit Paul à Timothée, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est le but de Dieu. Que nous soyons finalement propres à accomplir sa volonté. Et là, humblement, on lui dit, tu as du travail. Il y a du travail dans ma vie. Je ne suis pas consacré à accomplir ta volonté, je suis consacré à tant d'autres choses. Mais l'exigence divine est là dans un cœur entier. Il y a une seule direction, c'est sa volonté. Quand bien même elle pourrait prendre des chemins multiples, c'est sa volonté. Et Dieu sait où il nous emmène. Mais toutes les volontés annexes qui ne sont pas les nôtres, excusez-moi, tous les vœux que vous avez pu faire pour votre vie, les bonnes résolutions, les bonnes dispositions que vous avez prises, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour votre vie, il n'y en a que faire et n'y comptez pas. Par contre, s'il y a une certitude dans votre cœur, si Dieu a placé là une parole, si Dieu vous a montré la direction à suivre, et on va le voir, si vous avez épuré ainsi la volonté de Dieu qui est dans votre cœur à travers la lecture de la parole de Dieu, si vous l'avez mise en rapport, vous l'avez fait passer par le filtre, par le tamis de la Bible, pour pouvoir en sortir tout ce qui est de vous-même, tout ce qui est de l'humain, tout ce qui manque de sagesse divine et qui est peut-être de la sagesse humaine. Mais si c'est cela qui remplit votre cœur, qui détient ainsi la première place dans votre cœur, alors là vous pouvez dire oui, je suis un disciple. On voit l'exigence du disciple qui est mise très haute de la part de Jésus-Christ. Combien il était là, excusez-moi, je ne veux pas me permettre, et Alain va dire, mais qu'est-ce que tu dis à mes chrétiens de s'ils ne suivent pas Jésus, de pardon, non, mais je referme la parenthèse, c'est Jésus qui l'a dit, je ne vous le dis pas. Hein, ça c'est, mais quelle exigence il a mis, il a dit, mais si quelqu'un ne veut pas me suivre, mais il est libre. Hein. Il n'y avait pas de barrière fermée comme ça, de porte fermée à clé, non. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive. Si vous ne voulez pas me suivre, ne me suivez pas. Il a dit, si vous n'êtes pas prêt à vous charger de votre croix, mais vous ne pouvez pas être mes disciples. Cette croix, c'est le lieu où on est pur, justement, cet or. C'est le lieu où on est pur, la volonté de Dieu, c'est le lieu où on revient pour pouvoir faire le tri et dire, Seigneur, je veux te suivre. Et c'est pour ça qu'il nous dit chaque jour, chargez-vous de votre croix. Ce n'est pas nos souffrances. Hein. Jésus s'en est chargé, il a souffert pour nous. Amen. Si quelqu'un, ce matin, pouvait penser encore que sa croix, c'était sa maladie, sa souffrance, ses problèmes, son mari, sa femme, est-ce que personne n'y a jamais pensé? Ne répondez pas. Surtout si votre conjoint est là. Mais... Non. Jésus s'en est chargé sur la croix. Amen. Il a souffert pour nous. Nous n'avons pas à souffrir. Maintenant, la Bible nous dit qu'il faut s'armer de la pensée de souffrir pour servir Christ et la vie sur cette terre. Est rempli de souffrance. Moi, je pense que si le croyant en Jésus-Christ, le disciple, est épargné de toute souffrance inhérente à la vie sur cette terre, il y aurait de quoi provoquer tant de jalousie. Et là, dire, mais ce Dieu est injuste. Non, on est soumis au même soleil, on est soumis aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Et des fois, on en a plus parce qu'on gagne du terrain sur le terrain de l'ennemi. On veut remporter des victoires, on veut étendre. Ainsi le territoire conquis pour la gloire de Dieu, et on est soumis aux difficultés de l'opposition que le diable ainsi veut nous faire pour nous empêcher de servir Christ. Maintenant, la croix que nous devons nous charger chaque jour, ce n'est pas cette souffrance. Il ne faut pas être résolu, il ne faut pas, comment dire, être résigné. Dire non, c'est ma souffrance, voilà, c'est ma croix, c'est pas ce que Jésus a voulu dire. Lui, il est mort à la croix à notre place. Sinon, on remet en cause même le péché, on revient, on dit ben, je dois payer mon péché, je dois faire de bonnes œuvres pour pouvoir pardonner mon péché, et on s'éloigne totalement de la doctrine biblique du salut. Vous croyez que le péché a été porté par Jésus? Et que le pardon s'acquiert par grâce. Amen. Amen. Si quelqu'un n'en était pas convaincu, peut-être ne l'avait pas expérimenté ce matin, et il est temps encore. Mais c'est par grâce. C'est même pas en venant dans ce lieu que tu, simplement en venant, que tu pourras faire porter un regard agréable par Dieu, mais en venant, tu montres de tout ton cœur ta volonté d'avancer et de connaître l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour toi. Et de recevoir ce qu'il a voulu te donner par grâce. C'est-à-dire, c'est un cadeau gratuit, immérité. Et donc, n'importe quelle religion dans ce monde, et on peut toutes les mettre dans le même panier, qui prêche et qui annonce qu'il faut pratiquer de bonnes œuvres pour combler un peu les mauvaises que l'on a pu accomplir, sont totalement éloignées de la volonté divine. C'est par grâce. C'est juste en acceptant par la foi que Jésus a porté nos péchés pour nous. Mais la Bible nous dit que dans ces meurtrissures, nous avons, oui, là, la guérison. Amen. Il est mort aussi pour notre guérison. Alléluia. Amen. Donc, de la même manière, dites-moi si je me trompe, mais si nous croyons pour le péché, c'est pas notre croix, même notre maladie, notre croix que nous devons porter. Sinon, Jésus serait n'aurait pas eu de meurtrissures dans lesquelles nous pouvons avoir la guérison. Alors oui, l'exaucement de Dieu, la volonté première de Dieu, c'est de guérir. Maintenant, on est, je crois que vous aviez parlé la dernière fois des outils entre les mains de Dieu, j'avais donné cet exemple, hein, dans la caisse à outils d'un bon ouvrier, c'est l'outil bien souvent le plus utilisé, donc esthétiquement le plus abîmé, qui est le meilleur outil entre la main du bon ouvrier. De la même manière, ben, Dieu se sert de nous, et comme Jésus a dit quand on lui a posé la question, mais pourquoi cette maladie? Il a dit, mais c'est pour la gloire de Dieu, que notre vie, nous puissions vouloir la gloire de Dieu, mais ce n'est pas notre croix, c'est quotidiennement, est-ce qu'on vient à Jésus-Christ? Est-ce qu'on est prêt à laisser oui, le feu du Saint-Esprit brûler en nous, tout toutes les impuretés qui empêchent de faire de nous ainsi ce disciple consacré à l'œuvre du Seigneur. Alors qu'est-ce que ça, c'est la disposition de cœur, être enseignable. Mais qu'est-ce qui doit être formé? Quelle éducation on doit prendre? Qu'est-ce qu'on on doit dans quel domaine on doit progresser? Moi, je pense le un des plus gros domaines, c'est notre caractère. On voit bien que Paul disait aux Galates et parlait là du fruit de l'esprit et cette nécessité hein, d'être selon le caractère de Jésus-Christ. Et là encore une fois, excusez-moi, on dit à Dieu, oh là là, t'as du travail encore, hein. T'as du travail. À travers mon caractère, il disait aux Philippiens, mais ayez en vous les sentiments, c'est-à-dire l'état d'esprit qui était en Jésus-Christ. Lui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu, mais il a accepté de s'humilier lui-même. Il a accepté de prendre la place d'un simple serviteur. Il s'est rendu obéissant, même jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Seigneur, que mon caractère ne m'amène pas à vouloir m'élever, non, mais que je puisse garder ce caractère enseignable, douce, refléter vraiment ta propre nature, Jésus-Christ. Être selon tes sentiments, c'est l'état d'esprit, c'est l'Esprit Saint qui doit prendre vie en nous et sa place. C'est la volonté de Dieu qui doit supplanter notre propre volonté. Et cette douceur, cet amour, patience, tout ce fruit, ces caractéristiques du fruit de l'Esprit, nous puissions en prendre à cœur et nous dire, Seigneur, point par point, où est-ce que j'en suis? Est-ce que là, il n'y a pas une faille qui m'empêche d'être ton disciple? C'est là ma croix, Seigneur. C'est là le travail que tu vas accomplir en nous. On disait aux Galates, hein, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lui accepter de souffrir afin que Christ soit formé en eux. C'était là son but. Et sans cesse, c'était comme une renaissance dans un domaine particulier. Et il voulait les faire avancer pour que Christ soit formé en eux. Et la manière de gagner le plus grand nombre, Paul dit aux Corinthiens, c'était que lui soit fait ainsi serviteur. Il dit, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. C'était vraiment une mentalité en lui, cette mentalité de serviteur et enseignable. À Timothée, Paul lui dit, mais sache une chose, c'est que toute l'Écriture, hein, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et là, c'est vraiment la clé qu'il a donnée à Timothée. Comme je l'ai dit, oui, il y a la volonté de Dieu qui doit supplanter notre volonté. Dieu parle tantôt de manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas le problème. Si on est à son écoute, il parle. Amen. Amen. Il parle à travers des visions, des songes. Il faut être de ces personnes qui s'attendent à voir Dieu nous parler, à avoir ces expériences spirituelles et à vivre des expériences et à apprendre dans les expériences, mais sans jamais oublier que le repère, c'est la Bible et c'est là sa parole. Et toute autre manière dont Dieu peut nous parler à travers les circonstances, même à travers quelqu'un de bien intentionné, ce n'est pas 100% fiable. Parce qu'il y a toujours soit une part humaine, soit de la personne qui vient nous dire, soit de nous-mêmes, de ce qu'on comprend de la personne, soit même des circonstances, dans un moment où on est peut-être bien encouragé, où on est optimiste. Ah oui, s'il y a une difficulté, qu'est-ce que vous allez répondre d'un moment optimiste? Dites-moi, devant une difficulté, ça représente quoi spirituellement, cette difficulté? Ben, ça va vous montrer, vous dire... Eh bien, je suis sur le bon terrain, le diable s'oppose à moi, mais je vais continuer, c'est la difficulté, elle ne va pas m'arrêter. Hein. Au contraire, ça va me donner du courage pour continuer à avancer. Mais un moment un peu plus négatif, où on est là résigné, la moindre première difficulté, oh non Seigneur, oui, tu fermes la porte, hein. Tu fermes la porte, ah, il faut que j'emprunte un même chemin, un autre chemin. Et là on voit bien, à travers notre subjectivité, on peut entendre Dieu nous parler dans un sens comme dans l'autre. Ce n'est pas fiable à 100%, parce qu'on n'est pas fiable. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas fiable. La parole de Dieu est fiable. Vous êtes aussi d'accord avec moi? Alléluia. Elle est fiable. Et on peut lui faire confiance. Elle est inspirée. Elle est utile. Et ainsi vivre en disciple. Vivre en réel disciple de Jésus-Christ. Vivre en disciple qui se charge de sa croix, ben c'est revenir au message de la croix. Parce que toute la Bible, qu'on lise dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, elle parle de Christ. Alléluia. Et si on conseille aux nouveaux lecteurs de la Bible de commencer par le Nouveau Testament, c'est parce qu'ils doivent lire l'Ancien Testament à travers l'éclairage du Nouveau, à travers la vie de Jésus. Et on remarque que la croix était dans le cœur de Dieu dès la création. Ce n'est pas le plan B que Dieu a mis en œuvre dû à la dureté du cœur humain. Non, Dieu a toujours eu ce message de la croix, du pardon. Et on le voit dès la création avec Adam et Ève. On voit à travers cet animal qui a dû mourir pour cacher la honte du péché. On le voit, je parlais avec Abraham qui a dû donner son fils, ainsi en signe d'adoration de Dieu. Mais au dernier moment, il y a eu là le bélier qui est venu et qui a remplacé. Dieu s'est pourvu. Et l'adoration est donnée à travers ce que Dieu a pourvu. C'est ainsi que Jésus, en venant, il a été annoncé par Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute la Bible parle de Jésus-Christ et nous conduit à Jésus. Et là, l'élément fiable à travers lequel nous pouvons être vraiment ses disciples et connaître la volonté de Dieu. Paul, qu'on disait juste avant de dire à Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu, il dit « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Il dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Car toute l'écriture est inspirée. Et tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Amen. On veut être sage et intelligent pour Dieu. Et on saute cette sagesse qui parfois est une folie selon ce monde. Je tiens à rappeler, si quelqu'un peut-être pourrait mal interpréter, le croyant qui acquiert et qui désire la sagesse de Dieu, qui parfois est une folie pour le monde, ce n'est pas le croyant qu'on remarque comme ça, naturellement, et on le voit comme foufou, qui prend des décisions complètement en dehors même du bon sens humain. Il y a une réalité de la vie quotidienne que nous devons garder. Dieu a créé même les lois de la nature, et c'est lui, par son Saint-Esprit, par les miracles qu'il opère, qui va aller à l'encontre. Il en est capable, amen, il est le Tout-Puissant, mais nous avons à vivre d'une manière quand même consciente et sage dans ce monde. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il est nécessaire d'annoncer l'Évangile, ce n'est pas une bonne sagesse dans ce monde, ce n'est pas même des lois et une société qui tend à faire tourner la laïcité vers en disant aux croyants, rentrez chez vous, vous pouvez parler de Dieu uniquement dans votre église, dans la sphère privée, là, ben on veut faire preuve un petit peu de folie, avec sagesse, mais cette folie de la prédication de la croix, on ne peut pas nous empêcher de pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait. Amen. Et ce n'est pas du prosélytisme de témoigner ce que Jésus a fait. Amen. Et on peut le faire à n'importe qui. J'ai été dans des pays musulmans, et vous avez entendu, on a prié pour ce pays du Niger. J'ai fait 4 séjours dans ce pays du Niger, en accompagnant des fois des jeunes de nos églises pour découvrir le travail missionnaire. Et je me suis régalé à témoigner de ma foi à des musulmans, même intégristes, dans ce pays. Et j'étais en Tunisie et on peut parler ouvertement de ce que Jésus a fait. Et ce témoignage est reçu avec bienveillance, parce que je témoigne d'autant plus de mon respect vis-à-vis de Dieu et de mon sérieux dans ma foi. Et que chaque jour je prie, et pas 5 fois, mais sans cesse. C'est ce que Dieu me demande. Et 5 fois, je suis bien en deçà de ce que Dieu me demande, puisqu'il me demande d'être sans cesse en communion avec lui. Et croyez-moi, ça force le respect, un profond respect aussi de toute la population, même musulmane, à qui on peut témoigner de ce que Jésus a fait. Et de faire connaître un croyant authentique en Dieu, avec respect, sans aucune provocation, mais parlant de ce que Jésus a fait et de notre société. Oui, il ne faut pas qu'aucune circonstance, aucune loi ne nous empêche d'être un témoin de Jésus-Christ, d'être un disciple. Avec la sagesse que Dieu nous donne, qui peut paraître aujourd'hui une folie. Mais c'est Dieu ainsi qui nous qualifie. Alors, il faut être proche de ces Écritures. Il faut la lire, la méditer, mais aussi la mettre en pratique. Alors, c'est vrai, la connaissance des Écritures nous a permis d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ et de recevoir son salut, et aussi de grandir spirituellement, d'être équipé pour pouvoir propager la bonne nouvelle et accomplir toute la volonté de Dieu. D'ailleurs, aux Sadducéens, Jésus leur disait « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et là, on voit qu'il y a deux éléments qu'il nous faut connaître. L'Écriture, ce n'est pas suffisant, parce que de très bons théologiens, ne connaissant pas la puissance de Dieu, ne connaissent pas Dieu. L'Écriture et la puissance de Dieu. Finalement, il y a cette attitude du disciple qui a l'écoute de l'enseignement de son maître, qui étudie. Pas simplement lit la parole de Dieu. C'est déjà bien de lire chaque jour. C'est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour être le disciple de Jésus-Christ. Parce qu'on voit qu'il est nécessaire de lire. Comme on lit, il faut lire la Bible dans son entier. Il faut lire la Bible et commencer, c'est sûr, par lire peut-être un livre d'abord, et livre par livre, avoir une lecture suivie de l'Écriture. Mais il faut méditer l'Écriture. Et là, c'est dans d'autres temps aussi qu'on prend et qu'on relit le passage, qu'on prie, qu'on demande à Dieu de nous parler et qu'on le relit. On dit « Seigneur, ben apporte-moi ton enseignement spirituel ». Et puis, il y a l'étude. C'est encore différent. Étudier la Bible pour pouvoir sonder les Écritures. Et là, dans l'étude, il faut connaître un petit peu du contexte et se renseigner sur ce pourquoi cela a été écrit. Connaître le contexte, quand dans les Épîtres, on apprend que celui qui a écrit est emprisonné, ça éclaire déjà sur tout ce qu'il va dire et ça prend une autre ampleur. J'ai eu, par la grâce de Dieu, l'année dernière, puis avec mon épouse, partir en Israël, et avec un voyage organisé pour les pasteurs. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, quand je me souviens même ne serait-ce que des paysages, des circonstances, ne serait-ce que les distances entre deux lieux, mais en lisant la Bible, en lisant les événements, ça a pris une autre ampleur, une autre dimension. On passe du noir et blanc à la couleur. Mais c'est bon d'étudier la Bible et de donner un petit peu de couleur. Comment? En connaissant un peu le contexte historique. Il y a pratiquement dans toutes les Bibles d'études, avant le début d'un livre, un petit résumé. Ainsi, avec le plan du livre, les circonstances, des fois des points chronologiques. Et cela nous permet de nous poser les bonnes questions en lisant et comment étudier. Mais dans le contexte, dire, mais qui a écrit? Pourquoi est-ce qu'il a écrit? Où c'est qu'il a écrit? À qui est-ce qu'il a écrit? Qui sont les personnes qui sont là, dans ce passage? Ça, c'est l'observation. Le grand mot théologique, c'est l'exégèse. Mais l'observation, après, c'est l'interprétation. Avant d'en prendre pour moi, c'est dire, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire aux auditeurs, pour éviter justement de tordre le sens et que ma volonté supplante la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'auteur a voulu leur dire dans le contexte d'origine où il a écrit, dans les circonstances qui étaient les leurs, soit historiques, sociologiques, même pratiques. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Qu'est-ce qu'il a voulu leur laisser comme enseignement? Et puis, troisième étape, après l'observation, l'interprétation, c'est l'application dans ma vie. Qu'est-ce que je peux en retirer, Seigneur? Et là, lorsque je sonde l'Écriture, Dieu va me parler. Oui, par l'aide de son Saint-Esprit. Mais en voulant étudier, il va se révéler à moi. Et là, ça va être de la nourriture, et il va me faire grandir, et il va me permettre de pouvoir répondre à son appel, et finalement, de pouvoir prendre part à son appel. Alors, j'ai trouvé de la part d'un conférencier expert en matière d'éducation chrétienne, trois phases du chrétien Bon, je trouvais ça un petit peu humoristique, alors je vous les laisse. Il dit dans ses conférences, dans l'attitude vis-à-vis de la Bible, parce que c'est pas toujours évident d'étudier la Bible. Des fois, on n'est pas motivé, certains ont perdu la motivation. Alors, il dit, il y a une première phase, c'est la phase huile de ricin. Parce que certains en ont déjà reçu, ou alors on pourrait parler de l'huile de foie de morue, hein, qui est là. Ça éveille quelques souvenirs. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous en donne? On sait que c'est bon, on nous le dit, on sait que c'est bon pour nous, mais on n'aime pas le goût. On n'aime pas le goût. Et ça peut arriver. Et c'est cette première étape. Après, il dit qu'il y a la phase céréale. Alors, on lit les céréales. Oh, ça paraît fade comme cela. Si c'est pas assaisonné, c'est fade, sans intérêt. Mais nous savons que cela nous nourrit. Et puis la troisième phase, il dit, c'est la phase crème glacée. Il dit, nous trouvons un réel plaisir dans la parole de Dieu. Alors, tu peux dire à quoi est-ce que tu compares? C'est cette petite cuillère d'huile de foie de morue que ton enfance, ou alors maintenant, peut-être, ça fait bien des années les enfants sont plus soumis à cette torture, entre guillemets. Mais huile ricin ou huile de foie de morue, céréales, phase crème glacée. Quel est ton rapport? Ainsi. Et c'est ainsi qu'on pourra grandir. Après, dans la formation, il y a la participation active, aussi à l'église locale. Comme je citais tout à l'heure, Éphésiens 4, il nous est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et le but, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Dieu veut édifier le corps de Christ. Comment? Par notre perfectionnement. Et Dieu est le Dieu de la perfection. Quand il fait quelque chose, il le fait bien et il le fait parfaitement. Et son ambition pour nous, c'est une ambition parfaite. Alors si parfois nous pouvons nous résigner malheureusement à notre imperfection, oui, Dieu nous a pris tels que nous étions, mais il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes, ou tels que nous étions. Nous devrions être différents et continuer à être différents et accepter cette pensée. Et il nous donne tous les moyens. Ce n'est pas sur nous. Donc il n'y a pas de résignation à avoir. Et il ne faut pas accepter. Il ne faut pas dire non, Seigneur, tant que tu ne m'as pas appris où je ne me sens pas capable d'être là un disciple, je ne me sens pas capable de faire des disciples. Ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une raison qui est divine. Ce n'appartient pas dans la sagesse divine. Ce n'est pas une objection à apporter à Dieu. Sinon, on remet en cause sa puissance. Et je reviens, on remet en cause, on va pas remettre en cause le don gratuit de Dieu à travers Jésus-Christ et le pardon de nos péchés. On ne peut pas remettre en cause la toute-puissance de Dieu à travers même sa capacité à guérir selon sa volonté, son bon vouloir, parce qu'il a une volonté parfaite. Et il sait. Et on peut des fois être son outil. Et on voit même combien Paul disait, mais ben ça c'est... Il a accepté cette souffrance ainsi dans sa chair. Il a accepté, mais il servait le Seigneur. Et il savait que Dieu était capable de le guérir. Ce n'était pas une incapacité divine. Faisons attention à cela. Même les maladies qui peuvent être difficilement guéries au niveau médical n'apportent pas une difficulté à Dieu. Dans notre conception de difficulté et de gravité de situation, on ne doit pas l'attribuer à Dieu. Quand il est tout-puissant, il est tout-puissant. Point final. Il n'y a pas une échelle dans notre vie. Il n'y a pas de difficulté qui lui porte ainsi des difficultés à lui. Il est tout-puissant et il a les moyens d'accomplir parfaitement l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Amen. Aucun obstacle, aucune objection ne peuvent lui être apportées. Alors, que nous puissions, à l'exemple peut-être des hommes de Dieu qui ont des fois failli, mais apprendre à être ce disciple. On voit même David, qui était cet homme selon le cœur de Dieu, il n'est pas né avec ce cœur, selon le cœur de Dieu. Il a développé, il a appris, Il n'a pas toujours été cet homme selon le cœur de Dieu, mais il est revenu et il a appris de l'épreuve, de la difficulté. Il a laissé Dieu le relever. Amen. Afin d'accomplir son œuvre. Donc, ce matin, prends ma question. Es-tu un chrétien ou un disciple? Répondez, c'est un engagement devant Dieu, votre réponse. Êtes-vous des chrétiens ou des disciples? Répondez avec foi. Amen. On compte sur sa grâce, on veut être ses disciples. Donc, reproduisez-vous. Sinon, vous ne l'êtes pas. Reproduisez-vous. Faites des disciples. Formez-vous, équipez-vous, apprenez. Dieu vous a choisi pour cette région, pour cette ville. Jésus vous envoie, comme il a envoyé ses disciples. Il est là, dans ce lieu on a chanté, dans ce lieu saint. Ce n'est pas les murs, ces beaux murs. Hein. Je répète, je ne veux pas faire preuve de jalousie, j'aimerais en avoir autant à salon. Priez pour nous. Hein, on a des projets, on attend un permis de construire, juste pour un peu rénover. Priez pour nous, pour cette phase ainsi que dans laquelle on rentre. On va rentrer, mais c'est pas ces murs. Ces murs accueillent la présence de Dieu, dont vous, c'est vous qui l'apportez. C'est vous qui l'apportez. Il est en nous. On est le temple du Saint-Esprit. C'est parce qu'on s'unit tous ces temples du Saint-Esprit que la présence de Dieu est sensible. Alléluia. Elle est sensible ce matin. Elle était sensible durant le culte et l'adoration. Amen. Même si elle n'est pas sensible, Dieu est là. Ce n'est pas simplement le ressenti qui doit nous guider. Dieu est présent parce qu'il est en nous et il est vivant. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour te dire merci de nous avoir appelés pour le salut, Seigneur. Et merci de nous avoir appelés à être tes disciples.